Radio Okapi. Okapi. Okapi service avec Marcel Ngombombala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Au menu, comment lutter contre l'intox dans les réseaux sociaux. Nous en parlons avec nos deux invités, le professeur Kitumu Maimona Bertman, expert en technologie web, mais aussi le professeur Lapika Diomfomo, socio-anthropologue. On fait signe que le professeur Kitumu est déjà en ligne. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation pour aborder cette question sur comment lutter contre l'intox dans les réseaux sociaux. Et puis, le deuxième sujet, à partir de 11h03, après le flash de faux de 11h de Kinshasa, nous allons parler du développement de 145 territoires. Quelles sont les priorités? Le professeur Dadi Salé, expert en développement, et également le Luc Loutala, coordinateur du projet Co-Village, seront nos deux invités pour ces deux sujets. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ce jour. Justiciala est à la mise en œuvre de Tatima Poko, réalise et coordonne ce numéro présenté par Marcel Ngomobala sous la supervision du Jean-Marc Mataki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Voilà, c'est parti pour le magazine Okapi Service de ce jour. Comment lutter contre l'intox dans les réseaux sociaux? Chaque jour, de fausses informations sont créées et partagées avec parfois l'intention de tromper. Même si ce n'est pas toujours le cas, la désinformation peut avoir des effets néfastes. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit des sujets graves comme la publication des vidéos qui exposent l'intimité des gens, la divulgation de certains officiels censés rester confidentiels. Alors, comment lutter contre l'intox dans les réseaux sociaux? Je le disais, on en parle avec notre premier invité qui est déjà en ligne, le professeur Kitumu Maimona Bertman. Il est expert en technologie web. Je rappelle le numéro des contacts. Si vous voulez intervenir, vous pouvez composer les 081-890-6394 ou encore les 099-706-6394. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net. Et déjà, merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook au Capi Service par rapport à ces sujets, comment lutter contre l'intox dans les réseaux sociaux. Professeur Lapika Diomfomo, rebonjour. Professeur Lapika, vous êtes en ligne. Professeur Lapika, vous êtes en ligne. Apparemment, il y a quelques soucis avec la ligne du professeur Kitumu Maimona Bekman. J'espère qu'on va le retrouver tout à l'heure pour aborder ces sujets sur comment lutter contre l'intox dans le réseau social. Ah, c'est pour le professeur Kitumu Maimona qui est en ligne. Professeur, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, oui.
Ah voilà, professeur, merci. Merci d'être en ligne. Excusez-moi, j'ai confondu. Je pensais que c'était plutôt la PICA qui est en ligne. Voilà, professeur, vous êtes expert en technologie web. On parle aujourd'hui de comment lutter contre l'intox dans les réseaux sociaux. On le sait, hein, il y a bien souvent des fausses informations qui sont créées, partagées, avec parfois l'intention de tromper. Et même si c'est pas toujours le cas, on sait que la désinformation peut avoir des effets néfastes. Et c'est particulièrement lorsqu'il s'agit des sujets graves comme la publication des vidéos qui exposent l'intimité des gens et la divulgation de ce qui concerne certains officiels censés rester confidentiels. Alors, professeur, on ne sait plus rien faire. On vit avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui s'y passe. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment moyen de lutter contre l'intox dans les réseaux sociaux?
Oui, en fait, effectivement, Marcel, vous savez, nous sommes dans une forme de société où l'information est la denrée la plus prisée, la plus désirée. Donc, les gens se battent pour avoir l'information, ce qui, d'ailleurs, amène certaines personnes malveillantes ou mal disposées à désorienter ceux qui consultent, les utilisateurs, ceux qui ont besoin de l'information. Et, conséquence, pour manipuler, pour duper, pour tromper, ou pour orienter par rapport à une certaine opinion, ils diffusent des intox. Pas seulement que sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des sites internet qui sont créés rien que pour donner de la mauvaise information. Parfois, ils créent, puis ils suppriment. Donc, lutter contre les intox, c'est d'abord un travail qu'on doit faire soi-même. C'est un travail une volonté de vouloir avoir de l'information sûre, de l'information vérifiée et vérifiable. D'abord, c'est un travail qu'on fait soi-même. Et par la suite, c'est un travail qui se fait au niveau de censeurs. Censeurs, par exemple, les organismes, les structures qui peuvent suivre les différentes informations, les différentes publications.
Alors, professeur, vous avez dit un effort qu'on va faire soi-même concrètement. Ça peut se passer comment pour faire cet effort soi-même?
Alors, il y a plusieurs techniques de vérification d'informations, notamment l'assurance que le site consulté est réellement un site crédible. C'est-à-dire, si vous voulez avoir de l'information sur la présidence de la République, quoi de plus crédible que le site de la présidence de la République? Si vous voulez avoir une information sur une université, sur une école ou sur une personnalité, quoi de plus crédible que son compte Twitter ou encore son compte Facebook? Donc, c'est d'abord un effort de chercher une information par rapport à des sources crédibles. Et deuxièmement, en recourant à des techniques, il y a notamment des vérifications, le nom de domaine du site, les serveurs du site, l'adresse du serveur. Il y a même parfois on vérifie même l'orthographe, la grammaire sur les sites. Très souvent les sites de fake news ont du mal à bien écrire. On le reconnaît souvent parce que c'est fait à la hâte, on écrit très mal. Vous remarquerez souvent même certaines fake news qui sont diffusées à travers les réseaux, même sur les réseaux sociaux. Il y a toujours une faute. Il y a une récente là où vous verrez, il y a toujours une erreur sur la date, une erreur sur le nom de la personne. Donc voilà, quoi. Ce sont des petites techniques qui peuvent aider à identifier une fake news.
Voilà, c'est important d'insister là-dessus, professeur, avec toutes ces techniques, que vous, toutes ces astuces dont vous venez de parler. Mais alors, qu'est-ce qui s'est fait que, professeur, lorsque sur les réseaux sociaux, il y a des nouvelles, quand bien même que ce soit de fausses informations, mais qu'est-ce qui fait que les gens ont plus tendance, du coup, à croire à ces informations? Le premier réflexe, c'est d'y croire.
Alors, déjà, il y a l'attrait au sensationnel. Le but de l'infox, c'est d'abord donner du sensationnel. Et les gens aiment le sensationnel. Les gens aiment des informations qui frappent, le scoopage. Les gens aiment le scoop. Il faut que ça soit, ça brûle. Hein. Vous remarquerez, par exemple, dans certains sites, on a l'habitude d'écrire urgent et indie, show, flash, juste pour créer ce sensationnel-là. Parce que le public, l'internaute, est toujours à l'affût d'une nouveauté. Il veut quelque chose d'accroche, quelque chose qui frappe, quelque chose qui lui renvoie à une nouvelle que d'autres n'ont pas, qui peut partager avec les autres. Donc c'est un peu ça, c'est ce qui rend ces informations un peu friandes. Mais sinon, il n'y a rien c'est plus fort que le sensationnel.
Alors, vous avez déjà dit, là c'est déjà, on a compris, hein, déjà par rapport à soi-même, comment on peut faire très attention par rapport à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Vous avez également parlé des organisations qui peuvent aussi aider les gens à ne pas se laisser désinformer. Et là, c'est comment ça peut se passer?
Alors, déjà, il faut, je voudrais revenir sur une chose très importante. Déjà, par rapport à la naissance de ce phénomène de fake news, il faut savoir qu'il y a un mouvement de conspirationnisme tout autour de cette entreprise. Il y a un groupe de personnes, des gens qui estiment qu'on leur cache des informations. On leur cache des informations et eux, ils doivent travailler sur des informations qui sont soi-disant tenues secrètes et comme ça, ils peuvent éveiller les gens. Vous aurez remarqué, lorsqu'on a parlé de la Covid-19, par exemple, il y a eu plus de bruit autour de la Covid-19 que de la vérité. Et ces bruits, on les a remarqués sur les réseaux sociaux où les gens ont dit beaucoup de choses, ils ont raconté tout ce qu'ils pouvaient raconter sans nécessairement avoir de preuves par rapport à cela. Et très souvent, les gens n'ont pas attrait à ce qui est vrai. Ah, Balobaraza, Ndemona, ils sont là pour mentir. Donc, c'est un peu ça. Alors, deuxièmement, pour parler des organisations qui peuvent s'en occuper, bah, vous avez, bon, on va dire tout simplement, chez nous, on a le CESAC qui peut, lui aussi, à un certain moment, auditer, faire un monitoring de ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mais il y a aussi, au niveau des organes eux-mêmes, bon, je parle de la presse particulièrement, au niveau des organes de presse, il y a aussi un service de monitoring qui doit être fait, de vérification de ce qui est diffusé au nom du média. Et pour parler particulièrement de réseaux sociaux, vous savez, le milieu de diffusion par excellence de fake news dans les réseaux sociaux, ce sont les groupes, soit des groupes WhatsApp ou des groupes Facebook, tout se passe dans le groupe. Donc il faut un travail communautaire du groupe, donc un censeur au niveau du groupe pour vérifier tout cela. Et si le groupe est déjà constitué pour véhiculer des fausses informations ou travailler sur la désinformation, là, on ne peut rien faire.
Bah, d'accord, ça c'est bien dit. Et pour ça, j'ai beaucoup personnellement apprécié lorsque vous avez parlé de généralement, c'est souvent sur nos téléphones, hein, lorsque vous êtes en train peut-être de lire des messages et vous êtes sur la net, vous voyez tout à coup et ça apparaît urgent ou bien comme vous avez dit Indy. Et là, je pense qu'en vous suivant et vous tirez vraiment à l'oreille, hein, c'est-à-dire vous tirez vraiment la sonnette d'alarme qu'il faut faire très attention lorsque vous avez ces genres d'alertes.
Les alertes par contre sont définies par rapport à nos attraits, hein, par rapport à nos intérêts.
Oui.
Et ça, pour ne pas avoir ces alertes, il faut plutôt soi-même définir la non-réception de ces alertes, la non-notification de ces alertes. Là, c'est vraiment une autre paire de manches, je dirais. Les alertes, les pop, les publicités sur Internet, tout ça, c'est vraiment c'est quelque chose. C'est un choix par rapport à soit aux médias, soit à l'utilisateur. Mais bon, de manière aussi assez ouverte, bon, chaque État, vous savez, a sa politique, hein, par rapport à la lutte contre les fake news. Il y a actuellement un très grand mouvement chez nous pour des réflexions, hein, des travaux au niveau notamment du MIL-RDC pour savoir comment faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme structure, moyen de monitoring afin d'éviter de tomber dans les fake news. Donc c'est un peu ce travail-là qui doit être fait et qui doit continuer. Et d'autre part, il y a aussi ce travail de sensibilisation. C'est comme par exemple votre émission, c'est une bonne chose. Comme ça, les gens au moins savent à quoi s'en tenir par rapport aux informations qu'ils consultent sur Internet.
Alors, professeur Kitoumou, on revient à vous parce que le standard est déjà ouvert. Il y a déjà un premier auditeur qui est en ligne. C'est Serge Kingi qui nous appelle de Kindu. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien, Capi Service. Nous parlons de comment lutter contre l'intox sur les réseaux sociaux. Nous avons le professeur Kitoumou Maïmouna qui est en ligne. C'est bien notre invité. Si vous êtes intéressé, le numéro d'appel, c'est les 081-890-6394 ou en collision 99-726-6394.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Voilà, on va accorder la parole au premier auditeur qui nous appelle de Kindu. Serge, vous êtes en ligne depuis Kindu. Bonjour Serge.
Oui, bonjour Marcel et bonjour à notre invité du jour.
On vous écoute Serge.
Ok, le sujet est tellement intéressant, d'autant plus que c'est ce qui nous sommes en train de voir actuellement ici dans notre pays et le monde entier en général. En fait, je suis très ravi. Ma première question serait d'abord adressée à l'invité de savoir la différence entre les fake news et l'intox. Parce que si je comprends bien par rapport à une petite définition que je peux connaître, donc tout ça, ça fait partie des informations mensongères. Et donc, une information qui est tellement mensongère, adressée, conçue à une personne, alors, par rapport en ce qui concerne la justice, comment parvenir à attraper ou soit attraper quelqu'un qui a publié une fausse information envers une autorité, envers ma personnalité, envers quelqu'un que je connais bien? Est-ce que, du point de vue justice, quelles sont les sanctions qui peuvent être adaptées à cette personne qui aurait publié une fausse information? Ça, c'est la deuxième préoccupation. Troisième, pour terminer, ici à Kindu, il y a une période là, mon frère, ça c'est une histoire vraie, une période où il y avait un gars qui venait coucher avec, je m'excuse le terme, n'importe quoi avec les filles d'ici, et à cette période là, on appelait ça en kiswahili, il est à code. Et juste après ça, quand elle terminait à passer avec presque la majorité des filles, et juste après, le monsieur là est parti à l'extérieur du pays. Or, lorsqu'il faisait ses sales besognes dans la chambre, le monsieur avait son caméra caché et il faisait d'ailleurs, il donnait des stupéfiants aux femmes, voire même.
Il n'est plus en ligne, Serge, qui nous appelait de Kindu. Bon, moi, il a déjà posé ces deux questions. On va prendre notre invité. Lui, il se trouve à Lubumbashi. C'est Charles Kisimba. Bonjour, Charles. Charles, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi. Il pleut à Kinshasa. Je sais pas si cela perturbe le ligne. On va essayer. Tati Kélarisation va essayer de retrouver Charles Kisimba qui nous appelle de Lubumbashi. Allez, excusez-moi. Alors, professeur, vous avez suivi cette question de Serge qui nous appelait de Kindu, qui a cherché à savoir la différence entre fake news et un tox.
Non, mais c'est juste que fake news, c'est en anglais, hein. Un tox, c'est bon, intoxication, tout ça, un tox, c'est pour dire que la version française de fake news, c'est la même chose. Alors, ce que je voudrais dire aussi à Serge, c'est que il faut savoir qu'il y a deux niveaux de diffusion de fake news. Il y a d'abord un premier niveau où vous avez les conspirateurs, donc les créateurs des fake news. C'est lui qui le fait sciemment, il conçoit une fausse information sur une personnalité ou sur un sujet donné, et ce, dans le but de créer de l'instantanéité, de créer de l'émotion, hein, ou peut-être même pour chercher de l'audience, un nombre de vues, de likes, de partages. Et ensuite, il y a ces diffuseurs-là passifs. Lui, il est juste en quête d'information et il tombe sur une information et il trouve que c'est intéressant et que l'information pourrait intéresser aussi tous ceux qui sont autour de lui. Donc il diffuse sans nécessairement vérifier, savoir si c'est vrai ou une fausse information. Alors, concernant d'un point de vue juridique, il y a une loi sur la cybercriminalité qui est en gestation au Parlement. Donc on peut pas, je pense pas qu'il y ait, on peut dire clairement c'est à quoi s'attendre dans les cas de fake news, mais je pense que pour l'instant on applique la loi concernant les diffamations et autres faits, plaintes de ce genre.
Ah, d'accord. Alors, professeur, maintenant, quelle est deux fois l'attitude à tenir, hein, parce lorsqu'on a de vidéos qui sont divulguées sur les réseaux sociaux, qui mettent, par exemple, un peu, qui exposent la vie des gens, et le fait qu'on prend du temps pour réagir, est-ce que cela peut donner lieu aussi à ce que les gens puissent cautionner ces genres de vidéos?
Je n'ai pas suivi la question, un problème de réception.
Tout à fait, je le disais, il est en train de pleuvoir à Kinshasa, mais je réponds à ma question. En fait, c'est par rapport à l'aspect juridique, hein, c'est-à-dire bien souvent les gens se permettent de le faire parce qu'après, il n'y a pas de poursuite judiciaire par rapport à ces genres d'actes. Mais ma question était celle de savoir, est-ce que lorsqu'on parle de prenons le cas des vidéos qui sont divulguées sur la vie privée des gens et qu'il s'agit des fois de vidéos qui n'en sont pas une, qui ne sont pas vraies, et les gens prennent du temps pour réagir. Vous pensez que cette attitude peut aussi faire en sorte que ceux qui regardent ces vidéos puissent penser que c'est bien vrai parce que ces personnes ne prennent pas le temps de vite réagir?
Bon, après Marcel, il faut savoir aussi, on réagit parce que c'est vrai, on réagit parce que c'est faux.
Oui.
Donc ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est vrai, il y a un problème d'éducation numérique chez nous. Hein, et je pense que le ministère du numérique est en train de travailler là-dessus pour la simple bonne raison que les vidéos, les informations que nous recevons, on devait d'abord... De notre point de vue, déjà, il y a un travail moral qu'il faut faire, un travail d'éducation, un travail de moralité qu'il faut faire pour savoir est-ce que ce que je reçois comme information est crédible? Est-ce que la personne qui diffuse cette information est la personne ressource? Est-ce que la source de l'information est la source officielle? Et parlant précisément des vidéos qu'on peut communément appeler sextape, est-ce que la personne qui m'envoie cette vidéo pose ce geste pour amener quelque chose de bien? Quelle est l'intention? Et ça, c'est plus une question de moralité, c'est plus une question d'éducation. Et le comble maintenant chez nous, c'est qu'on n'est pas très, comme vous l'avez dit, réactif. Si seulement les personnes concernées dans les vidéos prenez rapidement des mesures pour aller se plaindre en justice, parce qu'ils ne se plaignent jamais en justice, pour qu'il y ait un suivi, vérifier, suivre tous ceux qui ont fait les partages de ces vidéos, peut-être que ça s'arrêterait à un moment. Il y a une vidéo qui circule sur X personnes. Si la personne commence d'abord par poursuivre celle qui lui a envoyé en dernier, cette personne-là va dire qui lui a envoyé la vidéo, ainsi de suite, remontant la chaîne, on peut trouver les diffuseurs et ainsi sanctionner. Et une fois que la sanction aura suivi ce genre de pratiques, je suis certain que cela va diminuer. Parce que c'est pas évident d'arrêter ça avec l'Internet, on ne sait pas arrêter les choses. Donc voilà, donc c'est peut-être un problème, un travail qui doit être fait, je pense, d'éducation, mais aussi un travail... au niveau de nos services de sécurité, voilà.
Notre auditeur en ligne, professeur, c'est Safari qui nous appelle de Igabarrière. On va l'écouter. Safari, vous nous appelez depuis Igabarrière à Nitori. Bonjour Safari.
Oui, bonjour. Bonjour aussi à monsieur l'invité. Moi, personnellement, par rapport aux fake news, monsieur le journaliste, je crois qu'il y a de cela moins. J'ai vécu trois fausses informations. Alors, la première était que notre célèbre musicien, pasteur Moïse de Millet, serait mort aux États-Unis. Je crois que c'était une fausse information parce que la radio, nulle part en a parlé. Ça, c'était vrai. Alors, une fausse news était, fausse information, c'était que, à part Moïse, on est allé toucher encore Mike Kalamai. Lui aussi serait mort quelque part. Alors, vérifier les informations, on a parfois mis le temps pour aller vérifier les informations, mais ça disparaît comme ça, c'est toujours sur les réseaux. Même les radios ne vont plus en parler. Troisième, fausse information que j'ai eu, c'était avec monsieur le président de la République. Moi, je crois que vous étiez au courant. on nous dit que voilà, il a subi une chirurgie au niveau j'oublie le nom du pays, au niveau de voilà, bon j'oublie le nom du pays, on dit qu'il a subi la chirurgie à cœur ouvert.
Vous parlez du président de la République en Belgique, vous voulez parler du président fasciste, le président Félix, tu sais quel c'est ça?
Oui, exactement.
Non, c'est en Belgique.
Ah, ce qui n'était pas la vraie information, parce que normalement, il n'avait pas subi la chirurgie. C'était faux. Et on est allé encore, on a encore ajouté, dire plus loin là-bas que, il est mort. Ça, j'ai vécu avec les réseaux sociaux comme WhatsApp, certains groupes, on a dit qu'il est mort et puis, il faut que, le groupe rebelle puisse se mobiliser pour combattre maintenant les restants du pouvoir parce que la chaise est restée vide au niveau de Kinshasa. Moi, je me suis étonné pour ce genre d'informations. Alors, la question que j'avais, est-ce que après avoir menti sur par exemple au nom du président de la République, est-ce que on n'aurait pas vraiment poursuivre ce genre de personnes? Parce que ce n'est pas normal d'aller toucher quand même le nom de Monsieur le Président de la République avec des fausses informations pour intoxiquer donc la population. C'était ça peut-être ma préoccupation. Sinon, bonne journée à vous.
Voilà, merci Safari d'avoir appelé depuis Gabarrière, en Ituri. On revient à notre invité, professeur Kitumou, pour ce, voilà, vraiment une belle illustration de ce que vous avez dit. Lorsqu'on a des informations comme ça, il faut chercher des choses crédibles. Allô, professeur?
Oui, en effet.
Oui, oui.
J'ai un problème de réception. Je savais pas que c'était à moi que vous vous adressez. En fait, oui, effectivement, je l'ai dit tantôt, hein, la première des choses, il faut vérifier la source d'information. On vérifie la source, établir sa fiabilité, on vérifie l'auteur de l'information. Est-ce qu'il y a le nom de l'auteur? Mais est-ce, après avoir vérifié le nom de cet auteur, est-ce que cet auteur a le pouvoir de donner cette information? Ensuite, on vérifie même, pour parler des réseaux sociaux, Twitter par exemple, un compte Twitter par exemple, on vérifie depuis quand ce compte existe. Est-ce que c'est vraiment le compte relié à l'auteur ou à la personnalité concernée dans l'information? Et aussi, on vérifie la date de l'information. Il y a aussi une autre astuce, c'est l'attention par rapport aux images qui accompagnent cette information. Vous verrez, on donne une information. Et ça se passe très souvent. Il y a toujours une information avec des photos, parfois des vieilles informations, mais on rattache à une période plus récente pour dire voilà ce qui se passe à l'est du pays, alors que ce sont des vieilles images qui n'ont rien à voir avec le contexte ou encore la réalité sociétale actuelle. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire et aussi surtout avoir l'esprit critique. Se poser la question: est-ce que ce qui est présenté, c'est réellement ce qui se passe? Parce que au-delà des institutions, des structures qui peuvent accompagner, nous avons nous aussi un travail, nous récepteurs des fake news, nous consommateurs de l'information, nous avons aussi ce travail-là d'arrêter ces fake news. Ne pas partager une information tant qu'on n'est pas sûr de sa fiabilité. Ne pas partager cette information quand on n'est pas sûr de sa crédibilité. Parfois même, nous avons le devoir aussi de démentir. Je prends un exemple, on donne une information sur une personnalité et moi je connais la personnalité ou bien je suis à côté de cette personnalité. Je ne dois pas attendre parce que plus j'attends, plus je donne du crédit à cette fausse information. Et puisque je suis un proche, je me dois de réagir. Et le problème parfois chez nous, c'est que on prend trop du temps pour réagir. Et ainsi, une fois qu'on a démenti, ça permettra alors d'arrêter de stopper cette fausse information. Et par la suite viendra l'étape de la dénonciation. Mais ça, tout ça, c'est vraiment un travail qui doit être fait. Et ça, c'est vraiment un effort d'éducation au numérique.
Professeur, c'est que vous venez de dire quelque chose, je pense, de très capital. C'est-à-dire que savoir réagir lorsqu'on sait que cette information par rapport à vos sources c'est des fausses informations, parce que c'est ce qui arrive parfois avec certains médias bien connus. Ça peut se passer soit pour Radio Capi, soit par RFI. Des fois, les sites sont trafiqués et il faut vite réagir pour que l'opinion sache que c'est pas le site de Radio Capi, soit d'une autre institution de médias. Donc, le fait qu'on prenne aussi souvent du temps pour réagir, c'est là aussi pose problème. Donc, la meilleure façon aussi de lutter parmi de méthodes qu'on peut utiliser pour lutter lorsqu'on sait que cette information n'est pas crédible et qu'on a vraiment des sources, il faut rapidement réagir.
Donc, je n'ai pas suivi la dernière phrase, mais je continue justement parce qu'en fait, c'est vraiment dans cette lancée. Parce que même avec la loi, il est difficile d'arrêter avec nous. Effectivement, Marcel. Avec Internet, il y a cet afflux de l'information. Il y en aura toujours assez, il y en aura toujours beaucoup, il y aura toujours assez de demandes. Les gens vont toujours conspirer. Les gens vont toujours s'attaquer aux autres, les opinions vont toujours diverger, et conséquence, il y aura toujours ces formes d'informations qui, en fait, manipulent et désorientent l'opinion. Donc, l'effort, comme vous venez de le dire, c'est vraiment au niveau de la dénonciation.
Professeur, excusez-moi. Professeur, oui, alors si c'est pas trop vous demander, vous êtes en endroit où il y a beaucoup de bruit. Si vous pouvez pas vous déplacer un peu, parce que peut-être un problème de réception se suit à tout ce qu'il y a comme bruit. On a du mal un peu à vous suivre. Le temps pour vous de vous déplacer, je rappelle que vous êtes branché sur Radio Capi. Pour ceux qui viennent de nous joindre, c'est votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous parlons de comment lutter contre l'intox sur les réseaux sociaux. Vous le savez, chaque jour, il y a des fausses informations qui sont créées, partagées, avec parfois l'intention de tromper. Et même si ce n'est pas toujours le cas, la désinformation peut avoir des effets néfastes, et c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit des sujets graves comme la publication des vidéos qui exposent l'intimité des gens ou la divulgation de la vie de certains officiels est censé rester confidentiel. Nous avons donc en ligne le professeur Kitumu Maimona Berkman qui est en train d'aborder avec nous ces sujets sur comment lutter contre l'intox dans les réseaux sociaux. Là, d'abord parler des sources crédibles. Chaque fois que vous êtes en face d'une information sur les réseaux sociaux, il ne faut pas directement vous fier à cette info. Il faut chercher d'autres sources crédibles qui peuvent confirmer l'info. Il y a également des institutions qui peuvent également aider à ce que qu'on puisse lutter avec tout ce qui est comme fausse information sur les réseaux sociaux. Professeur Kitumu, j'espère que ça va bien marcher. Maintenant, vous êtes bien là?
Je suis en train de chercher un coin assez bon.
D'accord, continuez à chercher. D'accord, on revient à vous, professeur, continuez à rechercher. Je rappelle, si vous êtes intéressé, vous voulez réagir, composez les 0-80-1-890-63-94 ou à condition 99, c'est 1-6-63-94.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC. Produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Comment lutter contre l'intox sur les réseaux sociaux? Eh bien, on en parle dans ce magazine au Capi Service avec notre invité, le professeur Kitumu Maimona Beckmond. Il est expert en technologie web. Nous avons un auditeur en ligne, Héritier, qui nous appelle depuis Bounia. Je pense que c'est bien ça. Héritier, vous nous appelez depuis Bounia?
Bonjour Marcel, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Héritier.
Je vais dire, je suis à l'étranger et j'envoie une vidéo dans un groupe congolais. Comment le pouvoir judiciaire pourra mettre la main sur cette personne-là qui a qui est à l'étranger, mais qui a envoyé une vidéo dans le groupe congolais. Voilà ma première question.
Oui.
Ah, ma deuxième question, c'est le ministre de la justice qui devra faire des efforts pour traquer tous ces genres de crimes. Parce que, désolé, lorsque nous regardons sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire on fait danser les chefs de l'État, on est en train de faire le mal contre les... On est en train de faire des choses qui n'honorent pas. Surtout lorsque vous n'arrivez pas à vous n'êtes pas préféré par une autorité quelconque, vous faites ce qui est mal pour ridiculiser cette autorité-là. C'est vraiment ridicule, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ce pays, nous vivons dans ce pays. La deuxième question est que je voudrais savoir s'il y a déjà une espace spécialisé qui est là pour traquer les criminels sur les réseaux sociaux. Voilà ce que j'avais comme préoccupation et des questions.
Merci Héritier d'avoir appelé des Bounia. On va retrouver le professeur Kitumo Maïmona. J'espère que ça, là il est le temps de se déplacer à un endroit un peu plus calme. Mais professeur Kitumo Maïmona, vous êtes bien en ligne?
Oui, je suis là.
Bon, j'espère que là ça va mieux. Ah, professeur, il y a Héritier qui nous a appelé depuis Bounia. Il a cherché à savoir puisqu'il faut chercher à traquer toutes ces personnes qui font circuler tout ce qu'on est en train de déplorer comme genre d'images ou d'informations fausses sur les réseaux sociaux. Et quand il s'agit des personnes, sa préoccupation était qui vivent à l'étranger. Est-ce qu'il y a également moyen d'essayer de traquer ces personnes?
Alors, je dois avouer que mes compétences juridiques sur la question sont pas suffisamment avancées. Mais une chose est sûre, pour chaque pays, surtout au niveau de l'Union européenne, il y a un travail sur le plan juridique qui est fait. En Allemagne, par exemple, il y a une loi qui contraint les réseaux sociaux à une modération réactive par rapport à tout ce qui est diffusé. Au Royaume-Uni, il y a toute une commission d'enquête qui travaille sur les fake news. En Italie, il y a une plateforme de signalement des fausses nouvelles. En France aussi, il y a une structure qui suit cela. Il y a même une loi. Excusez-moi, mais je ne sais pas si à quel moment on peut, à partir d'ici, poursuivre quelqu'un qui, par exemple, diffuse depuis l'étranger. Mais une chose est sûre, le travail que nous pouvons faire à notre niveau, c'est celui de contraindre la personne qui a diffusé l'information. Et si l'information, la personne qui a diffusé l'information, comme demande l'intervenant, et à l'extérieur, il faut alors trouver des mécanismes, mais je ne les connais pas, hein, d'un point de vue juridique, je n'ai pas assez d'informations là-dessus, mais je ne pense pas que ce soit possible. Ça là, je ne pense pas que ce soit possible, à moins de se renseigner auprès d'un juriste, peut-être qu'il y a des mécanismes qui permettent de poursuivre quelqu'un depuis l'étranger. Mais ce que je sais et dont je suis sûr, c'est que vous ne pouvez poursuivre cette personne-là que par rapport à la loi de son territoire. Donc, tant que vous êtes hors de son territoire, je ne sais pas si vous pouvez le faire en recourant par les voies de notre ministre, par exemple, de la justice. Mais pour arriver jusqu'à ces niveaux-là, il faut vraiment que ce soit quelque chose de grave, atteinte à la sûreté de l'État ou diffamation au niveau chef de l'État, peut-être, je ne sais pas où, d'une institution.
Voilà, professeur, on verra bien dans nos prochaines éditions de ce magazine, dans nos prochaines émissions, voir comment essayer d'avoir un juriste expert en ce domaine pour essayer d'éclairer nos auditeurs par rapport à cette question. Mais on retient, professeur, vous avez insisté. En tout cas, il faut chercher des sources crédibles lorsque vous êtes en face d'une information sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, vous avez également insisté de vite réagir, surtout lorsque vous savez que c'est pas ça et que vous pensez que vous pouvez apporter une vraie information par rapport à cela. Il ne faut pas rester les mains croisées, il faut réagir. Je pense qu'en gros, c'est ce qu'on peut retenir, professeur Kitumo.
Tout à fait, Marcel, parce que vous savez, il y a aussi un autre débat à travers le monde sur l'importance, l'intérêt de fake news. Il y en a même qui présentent cela comme une forme de liberté d'expression.
Oui.
Donc à un certain niveau, la personne peut aussi faire valoir son droit à la liberté d'expression, donc de s'exprimer. Il peut avoir un avis contraire à une autre opinion et l'exprimer à sa manière. Donc c'est aussi un débat et tout dépend de la, comme je l'ai dit, hein, de la législation et puis de la morale de chaque personne. L'effort que nous devons fournir, nous, c'est au niveau de l'éducation, ça je le répète, l'éducation au numérique, c'est-à-dire savoir que tout ce qui est diffusé sur le numérique n'est nécessairement ou pas foncièrement, fondamentalement vrai, et qu'à chaque fois qu'on reçoit une information, il faut d'abord la vérifier avant de la partager. Et une fois que c'est partagé, nous sommes responsables, nous aussi, nous sommes coupables. Si cette information s'avère fausse, nous sommes nous aussi coupables de divulgation d'une fake news. Voilà.
Voilà, merci professeur Kitumou Maïmona avec Monde. Je rappelle que vous êtes expert en technologie web. Merci d'avoir été des nôtres pour aborder cette question sur comment lutter contre l'intox sur les réseaux sociaux. On espère vous retrouver prochainement.
Merci à vous aussi et bonne continuation.
Voilà, nous avons un deuxième invité en ligne qu'on va retrouver, c'est le professeur Lapika Ndomfomou, il est socio-anthropologue, pour aborder toujours cette question sur comment lutter contre l'intox sur les réseaux sociaux. Professeur Lapika Ndomfomou, bonjour professeur. Professeur Lapika, vous êtes en ligne? On va retrouver le professeur Lapika Ndomfomou, lui il est socio-anthropologue. On va essayer un peu d'essayer de voir avec notre invité, le deuxième, sur les aspects sociologiques, en tout cas de ce genre de vie avec tout ce qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, surtout pour ce qui est de fausses informations, encore des vidéos qui sont divulguées sur la vie privée des gens. Donc je rappelle le numéro des contacts si vous venez de vous joindre à nous. Nous parlons de comment lutter contre l'intox dans les réseaux sociaux. Vous voulez appeler, n'hésitez pas à composer 081-890-6394 ou en code 09-706-6394.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
J'espère que ça marche maintenant avec notre invité, le professeur Lapika Ndomfomou. Professeur Lapika, vous êtes en ligne? Parce que Lapika n'est toujours pas en ligne, mais on va en profiter pour accorder la parole à un auditeur qui est en ligne. C'est Gérard qui nous appelle depuis Faradje. Gérard, bonjour. Gérard, vous êtes en ligne depuis Faradje?
Oui, je suis en ligne, cher journaliste. Merci, bonjour.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur comment lutter contre l'intox sur les réseaux sociaux?
Merci. L'émission est vraiment pédagogique aussi. Il y a des fois que nous parlons de fausses informations et quelques temps après, la fausse information s'avère vraie information après. Je ne sais pas si, parce qu'il y a, il y a des informations qui sortent comme ça, fausses, et après, ces informations sont confirmées. Non, voilà, non, c'était ça. Et on donne quand même des précisions là-dessus. Ma question était de savoir, parce que dans les réseaux sociaux, il y a ce que nous appelons, ce que nous voyons, on parle de la confidentialité. Alors, la confidentialité dont répondent certains internautes là, sert à quoi dans les réseaux sociaux? Parce qu'il y a, question de lutte contre les fausses informations. Moi, je voulais seulement proposer à ceux que nous avons une institution qui crée des lois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen seulement que l'Assemblée nationale puisse prendre un temps de monter un projet de loi pour contraindre ces gens-là qui donnent des fausses informations dans les réseaux sociaux, allant dans le sens de dénigrer parfois la personnalité des gens.
Voilà, merci Gérard d'avoir appelé depuis Faradje. On va retrouver notre deuxième invité, le professeur Lapika Diomfumu. Professeur, cette fois-ci, j'espère que ça sera la bonne. Vous êtes en ligne?
Oui, maintenant je suis en ligne.
D'accord, ça
oui.
Nous fait plaisir, professeur, parce qu'on sait qu'il est en train de pleuvoir à Kinshasa. Il ne nous reste plus assez de temps pour cette tranche. On va en profiter rapidement pour vous poser d'abord cette première question. Vous êtes socio-anthropologue. On est en train de parler de l'intox sur les réseaux sociaux. Alors, sur les plans... Allô, professeur, vous m'entendez?
Vous étiez coupé à un moment donné, maintenant je vous entends, oui.
D'accord. Je disais, oui. On est en train de parler de l'intox sur les réseaux sociaux. Vous êtes socio-anthropologue. Quel est l'impact négatif, en tout cas, de tout ce qui est comme intox, en tout cas sur le plan de la vie d'une personne, sur le plan sociologique, dans une société?
Bien. L'intox... ou l'infodermie aujourd'hui est devenue une sorte de ce qu'on peut comparer à la cybercriminalité en fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sciemment donnent de fausses informations. Et ils donnent ces fausses informations pour nuire. Ils donnent ces fausses informations pour déstructurer la société. Alors, ces gens-là constituent aujourd'hui des criminels sur le plan de l'information. Si vous regardez les cibles qui sont concernées par cette intox, vous avez non seulement des adultes, mais même des enfants. Et les réseaux sociaux aujourd'hui sont ouverts à toutes les catégories sociales. Et lorsque les enfants sont victimes de ces formations, vous voyez le risque dans la formation de leur personnalité. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous n'allons pas obtenir des enfants dociles, nous n'allons pas obtenir des enfants honnêtes. N'allons pas obtenir des enfants intelligents, mais des enfants qui bâtissent leur avenir sur l'irréel, sur la fausse information, sur des antivaleurs. Donc, toute société aujourd'hui qui veut protéger sa jeunesse, j'insiste sur la jeunesse parce que je sais que ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont victimes de l'infodermie. Et c'est pas seulement les jeunes, mais tout le monde. Mais je voudrais insister d'abord sur les jeunes, oui. Parce que quand vous circulez dans la société, ceux qui sont le plus connectés aux réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont les jeunes. Et il se passe dans ce monde une déformation, une déstructuration et une absence de recherche de vérité qui est préjudiciable à toute la société. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Justement, oui, c'était ça justement, professeur. Puisqu'on a pris assez de temps, qu'est-ce qu'il faut faire, professeur? Les pistes de solutions face à toutes ces fausses informations, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut réglementer la circulation de l'information.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut une loi. Et l'Assemblée nationale doit voter une loi pour condamner la cybercirculation de fausses informations. lorsque les gens sauront que donner des fausses informations peut vous amener à des sanctions sévères, et je crois que certains vont revisiter la diffusion de leurs fausses informations. Donc, il faut que l'Assemblée nationale se penche sur cette question, qui est une question qui débouche sur une loi. Mais en même temps, il faudrait que les organisations de la société civile sensibilisent, organisent des conférences pour amener les gens à sélectionner les informations à considérer comme informations fiables. Beaucoup sont encore dans l'ignorance.
Oui.
Et moi, je vois des gens, dès qu'il a lu un message sur les réseaux sociaux, il vient vous le rapporter textuellement, sans qu'il y ait cet effort de critique, qu'on pourrait appeler des critiques historiques. Et les gens sont prêts à tout avaler sans savoir que c'est un risque immense pour leur éducation et pour l'harmonie et le développement de la société.
Professeur Lapika, mais il y a un auditeur qui est intervenu tout à l'heure de Faradje qui a dit il y a certaines informations qui au départ étaient fausses et puis après se sont avérées vraies. C'est plus alors dans ce moment comment faire?
Oui, mais ça, oui, lorsque l'auditeur dit qu'il y a des informations qui au départ étaient considérées comme fausses, et puis après ça se vérifie, mais ce sont des cas, je dirais, négligeables. Hein?
Oui.
Négligeables. Ce sont des cas négligeables, nous ne pouvons pas en faire la règle. Comme on dit que... Les exceptions confirment la règle. C'est vrai qu'il y a quelques cas, mais ces cas-là sont tellement rares que nous ne pouvons pas généraliser et en ce moment-là disculper les fausses informations à cause d'un seul cas qui s'est révélé vrai.
Donc c'est toujours important d'essayer de vérifier les sources avant de donner confiance à une information. Vous avez également dit, professeur, c'est important qu'au niveau du Parlement, qu'on puisse réglementer ces secteurs. Professeur, dommage qu'il y ait des perturbations à cause de la pluie, certainement. On pourra revenir par rapport à ces sujets avec vous, en tout cas sur les plans de l'impact de tout ce qu'il y a comme intox sur les réseaux sociaux, de l'impact sociologique, de l'impact au sein de la société. Merci, professeur Lapika Nzomfumu. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci.